franceinter.fr. Le journal Frédéric Beniada, bonjour.
Bonjour. La traque en Catalogne après les deux attentats de Barcelone et de Cambrils. La police affirme que les terroristes préparaient une attaque de plus grande envergure. Ils se connaissaient. Nous ferons le point sur l'enquête au début de ce journal. Et puis une dernière minute, après Barcelone, le groupe État islamique a revendiqué il y a quelques instants l'attentat de Cambrils. En Finlande, une enquête est également ouverte, là aussi pour attentat après la mort de deux personnes poignardées à Turku, dans le sud-ouest du pays. La route des retours de vacances, le drapeau rouge est ici et tissé partout en France. Le record de Monaco en football et le début du Tour d'Espagne en cyclisme, la Vuelta, placé sous haute surveillance après les attentats de Catalogne.
France Inter.
De découverte en découverte, l'enquête progresse à grands pas après les attentats qui ont ensanglanté la Catalogne jeudi soir. Avec une confirmation, les attaques de Barcelone puis de Cambrils ont été commis par un groupe de jeunes issus du même village en Espagne. 5 d'entre eux ont été abattus, 3 autres ont été arrêtés. Ils préparaient une attaque de plus grande envergure et les enquêteurs sont toujours à la recherche du chauffeur de la camionnette blanche qui a foncé sur la foule avant-hier sur les Ramblas. Bonjour Thibault Lefèvre.
Bonjour.
Vous suivez l'enquête pour France Inter. Aujourd'hui, Thibault, toutes les forces de police se concentrent sur un seul homme.
La police catalane a en effet une certitude depuis ce matin. Younes Abou Yacoub est le conducteur de la fourgonnette qui a tué 13 personnes et en a blessé une centaine d'autres jeudi après-midi sur les Ramblas. Le scénario de sa fuite se précise. Quelques minutes après l'attaque, il aurait pris le métro à l'arrêt Liceu, à quelques mètres de l'endroit où il a laissé la fourgonnette après sa course meurtrière. Il aurait emprunté la ligne 3 jusqu'au terminus à l'ouest de Barcelone. Il s'empare ensuite d'une Ford Focus, tuant au passage son conducteur et laissant le corps à l'arrière. Le terroriste présumé aurait circulé quelques minutes sur l'avenue Diagonale direction Tarragone, au sud de la Catalogne, avant de rencontrer un barrage policier. Il accélère, renverse et blesse un agent. Il essuie des tirs avant d'être obligé d'abandonner le véhicule et de fuir à pied. C'est à ce moment-là que les forces de l'ordre perdent la trace de Younes Abou Yacoub. Un peu moins de 48 heures après les faits, la police a lancé un appel à témoins. Une photo d'identité d'un jeune homme souriant est diffusée dans tous les médias. Elle possède aussi une autre image floue de vidéosurveillance. L'auteur présumé de l'attaque porte un pantalon noir et des espadrilles blanches. Autre piste, une Kangoo blanche. Le véhicule aurait été loué au même moment qu'une des camionnettes retrouvées jeudi, non loin de Barcelone. La Kangoo aurait pu être garée quelque part dans la ville pour favoriser la fuite. Enfin, la police catalane a procédé à une opération de contrôle ce matin dans une station de bus de Gérone, à une centaine de kilomètres au nord de Barcelone. Rien de probant dans cette intervention, mais un indice, les recherches semblent se concentrer sur le nord de la Catalogne, non loin de la frontière française.
Thibault Lefèvre, en direct de Barcelone, un seul et même commando qui préparait leur campagne d'attentats depuis des semaines. Ils avaient établi leur base arrière, leur quartier général, à Alcanar, une station balnéaire au sud de Barcelone. Emmanuel Leclerc.
Oui, dans une maison conspiratrice qui a littéralement explosé mercredi soir. Donc, ce qu'il en reste de cette maison continue de fournir de précieux renseignements aux enquêteurs ce matin. Des enquêteurs qui cherchent encore à comprendre quels étaient en fait les projets initiaux de cette cellule terroriste qui s'apprêtait visiblement à commettre des attentats d'une ampleur meurtrière encore plus tragique que ce qu'il s'est passé à Barcelone puis à Cambrils. Dans les débris, les experts ont pu identifier 2 corps différents. Ils ont également retrouvé non plus 20, mais au final plus d'une centaine de bonbonnes de gaz. La présence également de TATP, cet explosif qui a servi à Paris et à Bruxelles notamment. On en trouve dans les ceintures d'explosifs de kamikazes des organisations djihadistes comme l'État islamique. Les autres indices, par exemple, ce sont des boulons éparpillés autour de la maison après la double explosion de mercredi soir. Parmi les blessés, 6 au total, voisins compris, figure l'un des membres présumés de cette cellule terroriste qui a frappé en Catalogne. Son identité n'a pas été dévoilée, sans doute pour laisser le temps à la police et aux services de renseignement européens, voire marocains, d'aller perquisitionner chez ses proches. On sait juste qu'il est originaire de Melilla, l'une des enclaves espagnoles sur le continent nord-africain.
Emmanuel Lefèvre, une préparation minutieuse. Aucun d'entre eux n'était fiché pour radicalisation. Des terroristes qui avaient grandi dans le même village dans les Pyrénées, pas très loin de la frontière française. 2 jours après ces attentats, les voix s'élèvent pour réclamer une meilleure coordination des services de renseignements européens. L'idée d'un FBI à l'européenne pour éviter que ces terroristes puissent se déplacer en toute tranquillité est relancée, notamment par la voix de Georges Fenech, ancien président de la commission d'enquête après les attentats de 2015. Un avis partagé par le député européen espagnol Ernest Oubtarsoun, il était l'invité de la matinale de Laetitia Gaillet.
Au Parlement européen, nous venons de créer une commission spéciale pour analyser la question du terrorisme. Et bien sûr, il y a plein de questions qui se posent en matière de coordination. C'est vrai qu'il y a des structures de coordination des services de renseignement. Par exemple, nous avons un centre de coordination antiterroriste européen qui dépend d'Europol. Mais est-ce que c'est suffisant? La réponse, de mon point de vue, c'est clairement non. Moi, je sais que pendant la campagne présidentielle française, il y a eu des propositions visant à la création d'un centre de renseignement européen. Nous, en tant qu'Europe européen, on est plutôt favorable à commencer à travailler vers cette direction, parce que c'est vrai que dans les derniers attentats, on a vu qu'il y avait quand même des problèmes de coordination.
Le député européen espagnol Ernest Oubtarsoun, invité de la matinale de Laetitia Gaillet. Ce matin, invité de ce journal, Alain Rodier, directeur de recherche au Centre français de recherche sur le renseignement, ancien officier de la DGSE également. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Alors on découvre aujourd'hui que les auteurs de ces attentats n'étaient pas fichés pour radicalisation, très discrets, sans avoir été repérés par la police catalane, pourtant très expérimentés. Ça veut dire quoi? Qu'on est aujourd'hui dans l'impossibilité de repérer ce type de cellules dormantes très bien organisées?
Bon, c'est extrêmement difficile, effectivement, puisqu'ils n'avaient pas été repérés. Hein, donc, ils avaient pratiqué ce qu'on appelle la taquilla, c'est l'art de la dissimulation, ne se faisant donc absolument pas remarquer. Et donc, il était impossible de commencer la moindre action vis-à-vis d'eux, dans la mesure où, vraiment, ils n'attiraient pas l'attention.
S'il n'y avait pas eu l'explosion de cette bonbonne de gaz, hein, qui a en fait modifié les plans des terroristes, on aurait sans doute eu affaire à des attaques de plus grande envergure, c'est ce que dit la police espagnole, et personne n'aurait pu rien faire. Qu'est-ce qui ne va pas?
Eh ben, ça aurait été extrêmement difficile. Ben, ce qui ne va pas, c'est que le renseignement, effectivement, a des limites. Il faut savoir que le renseignement, on s'imagine qu'on va donner des instructions et que le renseignement va tomber dans les semaines qui ont suivi ces instructions. Mais le renseignement, c'est quelque chose de très longue haleine. Je ne parle pas du renseignement technique qui est un petit peu spécifique, les écoutes en particulier, les photos satellites, etc. Mais en réalité, le vrai renseignement qui peut fonctionner dans le cas du terrorisme, c'est donc le renseignement humain. Et là, ça prend des mois, voire des années, pour pouvoir pénétrer les milieux intéressés et pour pouvoir avoir des informations dignes de confiance.
Emmanuel Leclerc.
Oui, on voit le profil visiblement qui se dessine hein, des différents terroristes, de jeunes marocains. Vous avez connu par le passé d'autres filières comme cela de terroristes marocains. Est-ce que ça vous surprend ce qu'on est en train de voir et de découvrir?
Non, ça ne surprend pas du tout, dans la mesure où les Marocains avaient fourni déjà un gros contingent de djihadistes en Syrie et en Irak, mais également un contingent en Libye. Ce n'est pas du tout étonnant. Cela dit, il faut attendre bien sûr les résultats de l'enquête, parce qu'il va falloir savoir si cette cellule de 12 personnes, je crois, en ce moment, est-ce que parmi ses membres, il y avait des gens qui avaient été sur des fronts de guerre, ou est-ce que ce sont des gens qui se sont pas radicalisés, puisqu'ils l'étaient déjà, mais qui se sont organisés sur place sans jamais avoir connu un champ de bataille extérieur.
Emmanuel Leclerc.
Oui, aujourd'hui, oui, effectivement, on peut se poser cette question-là également, de savoir qui était leur prédicateur, qui les a incités comme cela à passer à l'acte, sachant que certains de ces jeunes sont originaires du Moyen Atlas, c'est-à-dire des Berbères, et il n'y a pas de tradition djihadiste dans cette région-là, normalement.
Ben non, pas vraiment, mais il y a également des convertis en Europe qui ne sont pas de tradition djihadiste. Donc tous les cas de figure sont tout à fait possibles et imaginables. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu des études très intéressantes faites sur le phénomène djihadiste en Espagne, et on s'aperçoit dans ces études que il faut toujours qu'il y ait un un facilitateur, appelons ça comme cela, c'est-à-dire une personne qui pousse d'autres personnes à passer à l'action. Et donc là, il va falloir essayer de déterminer quel était l'individu, ou peut-être plusieurs individus, qui ont été à la base de cette cellule. Ces facilitateurs, généralement, s'imposent parce qu'ils ont une autorité naturelle, mais qui est fournie généralement par une expérience soit du combat, soit religieuse, ayant fréquenté des madrasas, des écoles coraniques réputées. Et donc, ça, l'enquête à l'heure actuelle, je suis sûr, est en train de rechercher vraiment la personne centrale de ce réseau.
Merci Alain Rodier, directeur de recherche au Centre français de recherche sur le renseignement. Les Espagnols refusent de céder à la peur. Des milliers de personnes déposent depuis hier des bougies, des photos sur la grande place de Catalogne, où là où la fourgonnette a terminé sa course, la place de Catalogne transformée en mémorial, comme la place de la République après les attentats de 2015 à Paris. Le dernier bilan des autorités espagnoles fait état de 14 morts et 126 blessés de 35 nationalités différentes. Il y a énormément de touristes à cette époque de l'année en Catalogne. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a précisé hier que 28 Français avaient été blessés à Barcelone, dont 8 grièvement. Sur les derniers développements de cette enquête, donc à retrouver sur le site de France Inter, sur franceinter.fr. Et c'est dans ce contexte que s'élanceront cet après-midi depuis Nîmes les coureurs du 72e Tour d'Espagne cycliste. Une course placée sous très haute surveillance avec un contre-la-montre dans les rues de la ville cet après-midi. Reportage d'Olivier Martoc.
Impossible d'accéder en voiture dans le centre-ville, toutes les rues sont barrées. Un travail assuré par plus de 300 bénévoles. Comme Christian.
Toutes les barrières sont mises, on n'a plus qu'à attendre l'heure du passage des coureurs. Si on est avec cet esprit d'attentat, on fait rien. Mais je crois qu'il faut faire attraction à tout ça et de se dire, aujourd'hui, c'est le vélo qui est roi et on fait un grand pied de nez à ces gens-là.
Nîmes a l'habitude de gérer de grandes manifestations populaires, ses férias de Pentecôte et des vendanges accueillent des milliers d'aficionados, même si, comme le reconnaît l'adjoint au sport de la ville, Julien Plantier, le risque zéro n'existe pas.
On travaille depuis des mois avec les différentes autorités, les forces de l'ordre, que ce soit en Espagne ou en France, pour que tout se passe dans de meilleures conditions. Vous savez, on a l'expérience des férias sur Nîmes, avec des centaines de milliers de personnes qui sont réunies aussi comme cela. Donc on est quand même expérimenté à cela. Comme je le disais, le risque zéro n'existe pas. La seule chose qui a été modifiée, c'est qu'on a eu une compagnie de CRS supplémentaire. Tout est mis en œuvre pour que ça se passe bien. La vie ne s'arrête pas et il faut pas leur donner raison.
En plus des 300 bénévoles, 1200 policiers seront déployés sur le terrain aujourd'hui. Un dispositif complété par 4 hélicoptères en permanence en vol, ainsi que des drones équipés de caméras pour garantir une intervention immédiate en cas de problème. Nîmes, Olivier Martoc, France Inter.
Et sur le terrain, à la frontière avec la Syrie, l'armée libanaise progresse contre les positions du groupe État islamique. Il y a 4 jours, les militaires ont repris aux djihadistes une colline stratégique dans la région de Ras Baalbek. Nifkola Fellman.
Canons pointés vers les montagnes de la frontière syrienne, des tirs d'artillerie pilonnent à quelques kilomètres les positions djihadistes. Pour rejoindre les sommets, notre convoi d'une dizaine de véhicules progresse sur des routes désertiques et rocailleuses. Au bout d'une heure et demie, un militaire indique la colline d'Al-Khanzir.
C'était la région centrale de Daesh. Les djihadistes étaient juste ici.
La frontière syrienne se trouve à 4 kilomètres, une position reprise mercredi par l'armée, nous explique un officier.
À 5 heures du matin, l'attaque a commencé. Il y avait des grottes dans lesquelles les terroristes étaient cachés, avec des snipers, des obus de mortier. C'est une région très importante pour protéger les postes de l'armée.
Et des opérations menées, même si rien n'est officiel, en coordination de l'autre côté de la frontière avec le régime syrien et son allié du Hezbollah. Entre 100 et 600 djihadistes pourraient encore être retranchés dans ce territoire de 300 km² à cheval entre les deux pays.
Et puis en Finlande, la police a ouvert une enquête pour acte terrorisme après l'attaque au couteau hier après-midi. Un homme a poignardé plusieurs personnes à Turku, dans le sud-ouest du pays. L'attaque a fait 2 morts et 8 blessés. Le suspect interpellé par la police est un jeune Marocain de 18 ans.
Le journal de 13h sur France Inter.
Vous êtes nombreux à prendre la route aujourd'hui pour les retours de vacances. Bison Futé a hissé le drapeau rouge au niveau national dans le sens des retours et même noir dans le sud-est du pays avec une circulation très dense. Élise Thibault.
Eh oui, dans le sens des retours, hein, vous êtes très nombreux à avoir pris la route depuis ce matin. Les accès aux grandes villes sont donc compliqués, principalement Bordeaux. Hein, on a 2 heures de bouchons en venant par l'A63. Nantes aussi, ou encore Brive en arrivant du sud par l'A20. On a en plus des accidents sur l'A10, juste en entrant en région parisienne. Comptez actuellement 2 heures et demie de bouchons. Autre accident sur l'A75 avant d'atteindre Clermont-Ferrand. Là, vous roulez au pas pendant 1 heure. Et puis, sans surprise, hein, c'est compliqué dans le sud et le sud-est, vous êtes fortement ralenti sur l'A7. Comptez entre 2h30 et 3h pour faire Orange-Lyon. Très ralenti aussi sur l'A9 en remontant d'Espagne où le passage de la frontière est aussi très compliqué. Et sur l'A61 de Toulouse jusqu'à Narbonne.
Élise Thibault, absence de pluie et fort mistral. Le risque d'incendie est très important aujourd'hui dans les massifs forestiers du Var, des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse. Les pompiers sont en état d'alerte. Des pompiers qu'il faut éviter de gêner sur les routes lors d'une intervention. Et c'est la même chose en mer lorsque les Canadairs vont écoper. Message de bon sens de Sébastien Jancienne, porte-parole du préfet maritime de Méditerranée.
Quand un Canadair va aller se remplir d'eau, va aller écoper, il va effleurer la surface de l'eau. Et cette opération, elle est très sensible. Et il faut vraiment donner le plus de place possible et ne pas gêner la manœuvre. En d'autres termes, quand un Canadair passe à basse altitude, on doit s'éloigner à plus de 500 mètres de l'axe de présentation et pas chercher à se rapprocher. Tout le monde doit s'éloigner, qu'on soit dans un zodiac, dans un voilier, ou qu'on soit en train de nager ou en train de plonger. On doit s'éloigner à plus de 500 mètres de cet axe de présentation.
Après les gaufres, des gâteaux aux amandes de la marque Lotus vont être retirés des rayons des supermarchés. Certains de ces gâteaux ont été fabriqués avec des œufs contaminés au fipronil. Mis en rayon entre le 3 juillet et le 3 août, le ministère de l'Agriculture a publié hier une deuxième liste de produits incriminés. La porte aux États-Unis. Donald Trump s'est finalement séparé de son sulfureux conseiller Steve Bannon. Empêtré dans une violente polémique après ses déclarations sur Charlottesville, le président américain entend faire ainsi quelque peu retomber la tension. À Washington, Philippe Randet.
Après le porte-parole, après le secrétaire général et le directeur de la communication, c'est le conseiller stratégique qui quitte donc la Maison Blanche. Entre vaudeville et télé-réalité, le premier été de Donald Trump au pouvoir bascule peu à peu dans le chaos, avec dans le rôle du chef sans orchestre, un président toujours plus imprévisible. Le départ de Steve Bannon, qui était en conflit ouvert avec une grande partie de la Maison Blanche, est une victoire pour John Kelly, le nouveau secrétaire général. C'est aussi une victoire pour les conseillers modérés de Donald Trump. Une victoire qui permet à la Maison Blanche de tenter de calmer la polémique autour de Charlottesville. Donald Trump est critiqué de toutes parts depuis plusieurs jours après avoir envoyé dos à dos néo-nazis et militants antiracistes. Des prises de position qui lui auraient été en partie dictées par Steve Bannon. Steve Bannon, proche de l'extrême droite, qui compte bien rester très présent et surtout très influent. Il est déjà revenu à la tête du site d'information Breitbart, un site nationaliste et ultra-conservateur. Maintenant, je suis libre, a-t-il dit avant d'ajouter, la présidence Trump pour laquelle nous nous sommes battus est terminée. Washington, Philippe Randé, France Inter.
Un record sur le rocher, un 15e match sans défaite pour Monaco hier soir lors de la 3e journée de Ligue 1. Monaco a battu Metz 1-0. Pourtant, le club de la Principauté avait décidé de se passer du prodige Mbappé, qui n'est pas à 100% selon son entraîneur à cause des rumeurs de son transfert au Paris Saint-Germain. La suite des rencontres aujourd'hui avec 6 matchs au programme. Le premier à 17h, Lyon recevra Bordeaux. Nos villes en fête ce week-end pour les traditionnelles ventes de yearling. Pendant 3 jours, le gratin du monde hippique se retrouve dans la station balnéaire à la recherche du meilleur cheval de course. Le marché se porte très bien. L'été dernier, 261 yearling ont été vendus pour près de 40 millions d'euros. Alors comment élève-t-on et entraîne-t-on un cheval de course? Delphine Evenou s'est rendue au haras de Montaurette dans le Calvados.
Pour les novices, commençons par la base lexicale.
Un pur sang anglais de 0 à 1 an s'appelle un foal et de 1 an à 2 ans s'appelle un yearling.
Et ils sont 32 yearling à être bichonné ainsi par Gwenaël et son équipe depuis plusieurs semaines.
À 6 mois, ils sont sevrés, ils viennent ici. À partir du début de l'été, on commence à les préparer pour les ventes. Donc ça dure à peu près 2 mois et demi. On les rend beaux pour qu'ils soient le plus présentables possible aux ventes de novices.
Et comme il faut souffrir un peu pour être beau,
on les prépare un peu comme des athlètes en fait.
Lucille, la co-gérante de la Motteraie.
Pendant toute la semaine, ils vont marcher, sortir, marcher et ressortir et marcher. Et il faut qu'ils soient assez entraînés mentalement et physiquement pour pouvoir encaisser tout ça en fait.
On retrouve donc Gwenaël devant le marcheur, sorte de manège pour poney, mais en plus grand.
Alors ça paraît rien, c'est-à-dire que là, vous voyez, ils vont simplement au pas à 6 km/h. Mais pour un cheval, c'est du travail. Ça lui permet d'améliorer sa ligne de dos. Il y a quelque chose qui est très important dans le pur sang, c'est la démarche, la locomotion.
Car à Deauville, les acheteurs parient et cherchent de futurs galopeurs et vainqueurs. De quoi rendre les éleveurs fébriles.
C'est une semaine stressante parce qu'il y a des très gros enjeux. C'est une partie du chiffre d'affaires de l'année parce que là, on présente nos meilleurs poulains, donc les meilleurs pédigrés, les meilleurs modèles.
Le cru 2017 s'annonce comment?
Il s'annonce plutôt bien. Pour nous, c'est notre plus beau cru.
Sur les deux premiers jours de la vente, un cheval se vend en moyenne 200 000 euros. 2,6 millions même pour le record il y a deux ans.
On va revenir tout de suite avec vous, Emmanuel Leclerc, sur l'enquête sur les attentats de Catalogne avec un dernier développement.
Oui, a priori, la police espagnole a bien retrouvé le kangou blanc recherché depuis hier par toutes les polices, que ce soit en Catalogne ou dans les régions voisines, voire même côté français, puisque les autorités espagnoles avaient prévenu les autorités françaises. Donc ce kangou blanc a été retrouvé, mais en revanche, toujours aucune nouvelle de Younes Abou Yacoub, le suspect numéro un, l'ennemi public numéro un en Espagne depuis maintenant les attentats de Barcelone.
Emmanuel Leclerc, il est 13h20 sur France Inter.